France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
J'ai peur avec les canicules et les incendies qu'on assiste à une désertification sociale, que les gens fuient. Et donc pour arriver à rendre habitables et désirables nos corbières, il va falloir vraiment qu'on dépasse tous nos clivages.
Le choix de départ, c'est est-ce qu'on veut conserver ce territoire ? Si on veut le conserver, on met les moyens qu'il faut. Si on dit ben, on n'a pas les moyens, ben, on migre ailleurs et on en fait un désert demain. Mais comment on ait le courage politique de le dire ?
Il faut vraiment qu'il y ait ces changements de paradigme pour qu'après il puisse y avoir une dynamique. Si on a quelques réglementations qui bougent et si on a quelques budgets qui arrivent, comme ça a été fait pour les zones de montagne, on arrivera à rebondir.
Les pompiers l'ont appelé l'ogre des corbières. Le feu qui s'est déclenché le 5 août dans l'Aude s'est propagé à toute vitesse et a détruit 37 maisons, touché des centaines d'exploitations agricoles et entreprises, ravagé 17 000 hectares de vignes, de forêts et de garrigues avant d'être stoppé. Une habitante est décédée. Tourisme et agriculture, piliers du territoire, sont ébranlés. Plusieurs incendies avaient déjà touché le département depuis le début de l'été. Et avec le changement climatique qui entraîne une multiplication des épisodes de canicule, le risque ne fait qu'augmenter. Les feux sont favorisés par la sécheresse de la végétation, sont également pointés le manque d'entretien des forêts et le recul de la vigne qui joue un rôle de coupe-feu. Comment s'organiser ? Comment soutenir les sinistrés, mais aussi préparer l'avenir et repenser le territoire ? Avec quels moyens politiques et financiers ? La région Occitanie et le département se mobilisent. Ils ont chacun débloqué une enveloppe de 10 millions d'euros et un plan Occitanie Résilience se prépare. Un fonds d'urgence gouvernemental de 7 millions d'euros a par ailleurs été annoncé. Mais y aura-t-il un engagement plus durable pour aider ce territoire à rester habitable ? Vivre dans l'Aude après les incendies, c'est un reportage signé Catherine Pétillon. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous vous êtes rendue dans le massif des Corbières un mois après ce feu hors norme.
Oui, le feu n'avait été complètement éteint que quelques jours auparavant. La période n'était déjà plus celle des premières urgences, mais j'ai rencontré des habitants encore très marqués, choqués, parfois abattus. J'ai traversé aussi des paysages saisissants. Il faut se figurer des endroits où il n'y a que la nature, mais désormais quasiment plus de vert, car la végétation a brûlé, voire a été détruite. Ce qui frappe aussi, c'est le nombre d'initiatives individuelles ou locales pour trouver d'autres manières de faire, de travailler. Le territoire a depuis longtemps des difficultés liées à sa géographie, au dénivelé, à la chaleur. Le dérèglement climatique, vous l'évoquiez, aggrave ces handicaps. Alors, beaucoup demandent la reconnaissance par les pouvoirs publics d'une spécificité de la zone méditerranéenne et donc un soutien plus fort. Non seulement les feux se répètent, mais les températures montent. 42 degrés cette année lors de la canicule. L'accès à l'eau, y compris potable, est de plus en plus difficile. Les habitants que j'ai rencontrés sont à la fois très volontaires et attachés à leur territoire, mais aussi conscient du risque de désertification. Car finalement, la question fondamentalement, c'est à quelles conditions restera-t-il possible de vivre dans un territoire comme l'Aude ?
Notre invitée est aujourd'hui la géographe Magali Regueza. Bonjour.
Bonjour.
Ancienne membre du Haut Conseil pour le Climat, vous êtes spécialiste des risques naturels, de la vulnérabilité urbaine et des stratégies de gestion. Comment agir et avec quels moyens ? Ce sont les questions que nous aborderons avec vous. Après avoir écouté le reportage de Catherine Pétillon, nous allons tout de suite dans le massif des Corbières, à Fonjoncouze, l'un des villages les plus touchés. Les vignes y sont complètement calcinées.
Donc là, on est sur des parcelles assez jeunes. Morastel, donc là, on a Morastel et derrière le Tempranillo. Et bon, bah, il n'y a plus de vert. Sur le Tempranillo, on voit quelques repousses là. Mais bon, c'est pas toute la parcelle. Donc, quand je vois la tête des pieds, ils sont quand même très très noirs. Les feuilles sont marron foncé, et quand c'est marron foncé en général, c'est qu'il a fait beaucoup trop chaud. Je suis Thibaut Marais, je suis vigneron donc, au domaine de Couchaloup. C'est un domaine que j'ai créé en 2017, que j'ai racheté à quelqu'un qui partait à la retraite. J'étais sur 12 hectares de vignes et 3 hectares d'oliviers. Et avec les problèmes liés à la sécheresse depuis 3 ans maintenant, j'avais arraché 6 hectares cette année. Et donc, il me restait 6 hectares et qui ont maintenant tout brûlé. Et mes oliviers, pareil, tout brûlé.
Comment ça s'est passé pour vous, le moment de l'incendie ? Vous étiez là ?
Moi, j'étais là, puisqu'on finissait de clôturer. On savait qu'il y avait le feu à Ribaute, mais pour nous, Ribaute, c'est loin. Les feux, on est habitués. On n'était pas plus alarmés que ça. Dans le doute, moi je suis parti faire le tour de la montagne. Et en fait, non, les flammes étaient vraiment de l'autre côté, quoi. En fait, le vent a tourné à 90 degrés. Et là, on n'a pas compris. On est parti à 22h30. Et à 1h du matin, il y avait déjà 11 000 hectares de brûlés. On est dans les 2000 hectares heure. Pour donner un ordre d'idée, Fangencousse, c'est 2700 hectares. Donc c'est presque la totalité de la commune de Fangencousse qui brûle en une heure, quoi. C'est rapide, personne n'a pu comprendre ce qui se passait, quoi. Et on est rentré 2 jours après.
Et là, vous êtes allé voir vos hectares.
Ouais, on est rentré, ouais. C'est le premier truc qu'on a fait, ouais. Bon, là, on a vu qu'il n'y avait pas d'espoir. Moi, j'étais vraiment sur des vignes qui étaient un peu vieilles, plus de 50 ans. Donc, c'est des vignes qui ont beaucoup de bois mort. Et la chaleur était telle sur cette partie-là du feu qu'en fait, il y en avait même qui ont brûlé sur place. Il n'y avait plus que des tas de cendres. Donc voilà, je savais qu'il n'y avait plus rien à récupérer. Contrairement à d'autres, où il y a eu des vallées un peu épargnées, où ils ont pu se dire, la question c'était est-ce qu'on vendange ou pas. Moi, c'était non seulement je vendange pas, mais en plus, va falloir arracher, quoi. Tout est brûlé, mon matériel, moi il n'a pas brûlé, mais par contre il a pris la chaleur, donc tous les plastiques ont fondu sur mon matériel, donc il est inutilisable.
Ça veut dire que là, les conséquences, elles ne sont pas que pour à court terme, là, pour vous.
Ah, pour moi, les conséquences, elles sont à long terme, elles sont dans le sens où j'ai perdu complètement mon outil de production, j'ai plus de vignes. Les oliviers, on va essayer de les sauver, mais c'est pas dit. Il y a une équipe de 15 personnes qui sont venues m'aider justement ce week-end pour leur apporter beaucoup d'eau. En espérant qu'ils repartent. Au moins, je pourrais me dire que pour les oliviers, j'aurais fait le maximum pour les sauver. Mais voilà, c'est travailler sans garantie de succès derrière.
Il y a eu de la solidarité. Comment ça se passe là, justement, l'après, là, vous en êtes où ?
On est toujours un peu dans la sidération. On a été sidérés quand même pas mal de temps. En même temps, on a quand même énormément de travail, parce que tous les arbres qui ont brûlé, ils sont couchés sur les chemins, dans les parcelles, un peu partout. Il y a toutes les clôtures électriques qui ont fondu, donc il faut aussi enlever ça. Enfin, on a énormément de choses à faire. Préparer l'arrachage, puisqu'il va falloir arracher les vignes. Et donc, en fait, on ne sait juste pas par où commencer. Et donc, c'est vrai qu'on discute avec beaucoup à se dire, mais en fait, on a perdu toute motivation. On ne sait pas par quel bout prendre. Et voilà. Et c'est un peu, ouais, on cherche. Ouais. Trouver par quoi attaquer et qu'est-ce qu'on fait derrière. C'est là où rentrent en compte les assurances. Moi, mon principal problème, c'est que j'ai un plafond d'indemnisation globale qui fait que je peux replanter que 2 hectares sur les 6. Donc ça sera jamais suffisant pour en vivre. Et les 2 ans de sécheresse et les années Covid ont fait qu'en termes de commerce et en termes de trésorerie, on n'a plus rien. On est beaucoup à avoir les caisses à sec. Moi, l'après, il est assez réfléchi par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire que c'est l'arrêt de l'activité. On ne peut même pas se dire on part, parce qu'il y a encore des emprunts sur toutes ces terres. Donc il n'y a personne qui achètera, il faut être lucide. Donc voilà, donc un peu pris au piège. Après aussi, bon, on aime bien la région, donc moi ça me va de rester, ce n'est pas tellement le souci, quoi. Mais on est limité dans les choix, et voilà, il faut rester lucide par rapport à ça.
Et pour autant, donc là, vous avez ces terres que vous allez garder ?
Bah voilà, il y aura un micro-domaine Couchaloup qui va continuer à vivre, je pense, sur 1 hectare ou 2, mais sur du temps libre et pour continuer, parce que c'était une passion quand même. Parce que j'aime bien, moi, aller au contact des gens et faire mes marchés. Je fais une dizaine de marchés un peu partout en France et en Belgique, et continuer ça sur mes week-ends. Donc voilà, ça sera à négocier avec mon futur employeur, de pouvoir me laisser partir le vendredi midi et de me réembaucher le lundi midi, pour pouvoir faire mes marchés. Mais je veux garder ce côté-là, parce que c'est un projet de vie, et j'ai pas envie non plus de tout laisser tomber. Et puis le paysage des Corbières, c'est quand même une région magnifique, malgré nos difficultés climatiques. Et voilà, j'ai aussi envie de continuer à participer, à faire que ces paysages soient magnifiques de nouveau, que ça reprenne et tout. Ça sera plus mon activité principale, mais je veux quand même continuer à être acteur de ça.
Alors là, c'est mon champ de plantes médicinales. Donc on voit que la lavande brûle très bien. Elle est complètement morte. C'est
impressionnant. Il faut prendre une piste sur quelques kilomètres pour monter chez Emmanuelle Bernier. Cette éleveuse cultive aussi des plantes médicinales. Mais son exploitation a été traversée par le feu. Il a pratiquement tout détruit.
Tu fais quoi aujourd'hui ?
Là, tous les arbres qui sont morts dans la haie ici, à côté de la maison. Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde l'olivier, mais je pense qu'il est mort devant. Tu vois, le premier olivier, là.
Emmanuelle Bernier, vous, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez tout simplement encore travailler ? Vous en êtes où, là ?
Ah ben là, actuellement, la seule chose qu'il me reste, c'est la récolte de romarin que j'envoie chaque semaine à un fromager dans le Tarn. Et c'est tout ce qu'il me reste comme revenu agricole. Moi, je crois que pour renourrir les pâturages, il va falloir un an ou deux pour laisser pousser, éventuellement semer, laisser grainer, et puis voir comment on va pouvoir pâturer dans les zones qui sont vraiment calcinées.
Donc ça, c'est pour nourrir vos bêtes?
Pour nourrir les bêtes. Voilà, après, il va falloir acheter beaucoup plus de foin que ce qu'on faisait auparavant. Et pour ce qui est des plantes médicinales, on va avoir 2 ans d'engrais verts, beaucoup de travail de la terre. Et puis, le temps de réimplanter des cultures, c'est au moins 3 ans avant de pouvoir récolter. Ça veut dire peut-être reprendre une production dans 5 ans, si on s'y met maintenant. Voilà, on n'en est pas là. Là, on va mettre de l'engrais vert partout, essayer d'arroser au max ce qu'on peut encore un peu sauver. Et puis, dans l'immédiat, je vais être éleveuse en distanciel sur les zones qui n'ont pas brûlé. C'est des amis qui m'ont dit, bah, écoute, nous, on vient, on prend une bétaillère, on te prend tes animaux, parce que dans l'immédiat, il y a d'une part rien à manger, mais d'autre part, toutes les clôtures ont fondu. On m'a livré du foin aussi, hein, mais le gros du troupeau, je ne peux pas le garder sur site. Et puis, surtout émotionnellement, je ne suis pas en capacité, là, quotidiennement, de m'occuper des animaux.
Oui, il y a eu plusieurs étapes après ce feu, non ?
Il y a eu l'urgence, c'est-à-dire rendre les décombres accessibles aux experts. Il y a un énorme travail de listage administratif pour refaire des permis de construire pour les bâtiments qui sont tombés, tous les échanges avec l'assureur. Et puis, il va falloir se projeter comment est-ce qu'on repense les paysages, les pâturages, les cultures, est-ce qu'il faut refaire la même chose au même endroit, comment on protège mieux pour la prochaine fois aussi. Et puis, il y a toute la partie militante qui va consister à expliquer aux autorités, quelles qu'elles soient, que si on veut pas que ça recommence, il va falloir penser autrement, faire des pare-feux, les faire pâturer par les troupeaux. Bon, il y a beaucoup de réunions à faire, de négociations, d'explications, de visites sur site pour voir vraiment comment les pare-feux que nous avons faits ont fonctionné. Et ça, il faut qu'on en reparle parce que aujourd'hui, la loi française qui dit qu'on ne repâture pas pendant 10 ans après un incendie, celle-là, il va falloir qu'on envisage des dérogations parce que sinon ça va recommencer. Dans notre terroir, ça n'a pas de sens en fait.
En quoi les troupeaux protègent ?
Les troupeaux vont pâturer au sol et du coup, ça permet qu'on n'ait pas des sols sales, c'est-à-dire embroussaillés avec des ronces, plein d'herbes sèches, plein de branches tombées. Et du coup, le feu ne court pas sous les arbres. Je l'ai fait moi-même, donc j'ai sacrifié un de mes pâturages arborés qui était sous une pinède dans lequel pâturaient les ânes. Et donc on a juste cassé la pinède sur 2 hectares. J'ai perdu moi de la valeur de pâturage, mais j'ai gagné une défense contre le feu. Et donc le feu a tapé contre cette partie qui était très propre. Et on voit très bien que le feu n'a pas traversé puisqu'il y a beaucoup de vers au milieu. En revanche, il a fait le tour par au-dessus et par en-dessous pour continuer son chemin. Et il a fini par traverser ma ferme. Mais c'est sûr que la zone nettoyée coupe-feu que j'ai faite moi a beaucoup retardé et sans doute a aidé les pompiers à protéger la maison qui était juste au-dessus.
Vous, à ce stade, déjà, vous vous dites, je repars ?
Bien sûr, je repars. Moi, j'aime ce lieu, j'appartiens à ce lieu. Je ne vais pas partir. Je vais l'accompagner pour reverdir, peut-être devenir autre chose. Parce que voilà, il y a quelque chose qui est mort ici. Mais voilà, par chance, pas nous. Et ça va repartir de plus belle.
Allô Eric, ça va ?
Alors, ouais, moi ça va bien.
Bon.
Et toi ?
Bah, ça va.
Tu as récupéré un petit peu ?
La solidarité est grande, celle des copains, des voisins, mais aussi de dizaines de bénévoles. Certains se sont organisés autour du tiers-lieu paysan Beauregard. Cette association défend un modèle d'agriculture paysanne. Elle est née chez des vignerons, Nicolas et Karine Mirouz, installés à Bizané.
Qui était la maison familiale, qui aujourd'hui est devenue le lieu de la base arrière.
Donc votre activité première ici et principale, c'est la vigne ?
Oui, c'est la vigne avant tout. Donc on fait notre propre vin, donc ça veut dire qu'on est vigneron indépendant, qu'on est en bio, biodynamique, qu'on travaille aussi en agroécologie, agroforesterie. Donc on plante des arbres autour de nos vignes et on plante des arbres dans nos vignes. On a aussi des animaux. Alors au début, on avait notre propre troupeau, mais on s'est rendu compte que c'était un vrai métier et qu'on est monté jusqu'à 12 de brebis. Et on a 20 hectares et 12 brebis pour 20 hectares, ça suffit pas. Donc là, maintenant, depuis 7 ou 8 ans, on a un berger qui vient avec son troupeau. Et là, lui, il a entre 150 et 200 brebis. Et là, ça fait le travail. Et c'est super parce que lui, ça lui a permis de passer d'une trentaine de brebis à 150 brebis, d'avoir aujourd'hui le projet de s'installer. Enfin, sa femme est en train de s'installer bergère. Et nous, on a pu vivre ça, accompagner ça, et c'est formidable. Et c'est là qu'est née un peu l'idée du tiers-lieu, c'est de se dire que tout seul, se diversifier, c'est trop compliqué par rapport à notre métier qui nous absorbe déjà énormément. Et par contre, de le faire en collectif, ça avait d'autant plus de sens, beaucoup plus de puissance, et surtout avec chacun des savoir-faire. Donc on met en commun du foncier, on met en commun du matériel, on met en commun un certain nombre de choses, mais après, chacun a son domaine d'activité.
Vous avez lancé ce tiers-lieu au printemps, et puis quelques semaines, mois après, sont arrivés les incendies. C'est venu un peu percuter ou changer un peu ce lieu qui était en construction ?
Ouais, ça nous oblige à passer à la vitesse supérieure, à accélérer. Et en même temps, nous, ce tiers-lieu, on l'a construit autour de trois notions qui sont la mutualisation, l'entraide et la diversification. Et ce qu'on est en train de vivre là, mais percute complètement ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est mobilisé tout de suite. On s'est dit, mais la mutualisation et l'entraide, c'est ce qu'on va faire là, c'est qu'on va déjà s'entraider et mutualiser. Là, on a un peu de foncier, on a un parc, et on le met à la disposition. Et la diversification, ça sera l'étape de la reconstruction qui sera de dire, aujourd'hui, nos corbières, elles ont brûlé et elles vont sans doute rebrûler si on ne change rien à ce qu'on a fait avant. Donc, remettre de l'élevage extensif dans les garrigues, diversifier un peu plus, continuer la vigne parce que c'est un pare-feu, mais on ne peut pas tout miser sur la vigne aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas peut-être dès cet hiver qu'on va pouvoir mettre à grande échelle des brebis ou faire pâturer, mais dès maintenant et très rapidement, se mettre autour de la table avec des éleveurs, avec l'ONF, avec les propriétaires terriens, avec les communes, avec les chasseurs. Enfin, là, je pense que l'heure est vraiment grave sur l'avenir de nos corbières. On voit que nous, depuis quelques années, on assiste à une désertification au niveau météorologique. Là, il a plus moins de 300 mm. Et moi, j'ai peur avec ça, les canicules et les incendies, qu'on assiste à une désertification sociale, que les gens fuient. Et donc, pour arriver à rendre habitables et désirables nos corbières, il va falloir vraiment qu'on dépasse tous nos clivages.
C'est quoi les clivages ici ?
Il peut y avoir des clivages dans l'agriculture, par exemple, c'est cave coopérative, cave particulière, c'est bio, pas bio, c'est viticulteur contre éleveur, enfin... Voilà, ça peut être plein de choses. Et puis ça peut être aussi chasseur contre agriculteur, ça peut être chasseur contre citoyen, écolo, contre promeneur, contre sportif. Il peut y en avoir beaucoup. Mais le territoire, il se partage. Et chacun à sa place, il faut arriver à vivre ensemble harmonieusement, intelligemment. C'est là qu'il va falloir faire un effort collectif énorme. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une belle aventure à faire et il y a un enjeu important. Et nous, on représente ici des alternatives agricoles. Mais des alternatives agricoles, il y en a un paquet qui travaille dessus. Enfin, il y a des ressources, il y en a, des expérimentations, il y en a plein. Des gens comme nous qui, par exemple, travaillent avec un berger, on peut dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment le développer. Donc on a déjà fait ce travail un peu de laboratoire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le faire à grande échelle. On a des choses. Donc maintenant, c'est comment passer au braquet supérieur et que de alternatives sympathiques, on passe à un modèle accepté et mis en place par le plus grand nombre.
J'essaie de la tirer vers moi. Pousse dans ce sens-là. Mais tu penses qu'elle va tomber comme il faut ?
Ah oui.
Eh ben on la laisse faire. Voilà. Alors. Hop.
Ah oui. Bravo.
Où est-ce qu'on va là ?
On va amener une boule de foin dans une famille qui a été sinistrée, qui a des chèvres, qui n'a pas de véhicule. Le véhicule a brûlé aussi. Du coup, on ravitaille les animaux et on va faire un point aussi sur la situation des personnes et voir comment on peut les aider.
Tous les matins, des bénévoles se retrouvent dans ce tiers-lieu devenu base arrière. Ils collectent des dons, préparent à manger, organisent des chantiers de réparation ou arpentent le territoire à la rencontre des sinistrés pour s'assurer que même les plus petits ou ceux moins entourés pourront être aidés à faire face aux difficultés matérielles mais aussi psychologiques. Ce jour-là, elles sont trois à se rendre chez Anne-Laure et Robin, un couple d'éleveurs.
C'est un jeune, mais il est un peu traumatisé.
Ah là, depuis dès qu'il y a un avion, un hélicoptère, il a associé ça à l'incendie, donc c'est vrai qu'il est assez...
Combien de briquettes, Anne-Laure ?
Alors là, il nous en reste une cinquantaine. Et donc, on a perdu 23 chèvres, 2 boucs.
Voilà. Ça ne permet pas qu'on prenne des notes de ce que tu nous dis,
Pazan ? Non, voilà. Et voilà, donc les chèvres, il nous en reste une cinquantaine.
Attention, il est dans les câbles.
Voilà. une cinquantaine. Et voilà, sinon, on a perdu toutes nos volailles, tous nos pigeons, 4 de nos 8 chiens. Voilà.
Et un gros traumatisme pour vous deux.
Hein. C'est le plus dur, c'est de ne pas pouvoir plus sauver nos animaux, quoi. Partir avec vos chiens qui brûlent, c'est...
Bon, vous savez qu'au niveau de l'association, nous, notre vocation, enfin, telle qu'on a monté l'association, c'est de venir en aide auprès des plus démunis, des plus précaires, face à ce sinistre. Vous avez peut-être des choses à nous dire à...
Ben, nous, c'est surtout le temps d'oublier, en fait, on va dire, pour dire de pouvoir de passer à autre chose, en fait. Hein. Les animaux, c'est une vie, quoi.
Ouais.
Là, ce que j'ai besoin, c'est de recommencer à travailler, enfin, à remettre des animaux, enfin... À passer à autre chose, en fait. Donc, c'est replanter, c'est recommencer, quoi.
Vous avez des bêtes là, mais vous avez perdu du matériel, enfin, très pratiquement. Pour reprendre à court terme, il vous faut quoi ou...
Là, c'est surtout des clôtures. Parce qu'on n'a plus toute clôture. Là-bas, on a réussi à racheter un poste de courant pour dire des parquets dans le petit paddock. Mais bon, c'est des chèvres qui n'ont jamais été enfermées. Elles sont toujours en plein air, elles mangent toujours de la garrigue. Enfin, le fourrage, je ne la connaissais pas avant l'incendie, quoi. Parce qu'on a 25 hectares, on avait 70 chèvres, donc c'était... elles avaient de la place, quoi. Et donc, c'est surtout là, des clôtures, parce que, comme vous voyez, bon, tout ce qui est piqué en bois, ça a brûlé, mais tout ce qui est piqué en ferraille, il n'y a plus de désulateur. Alors, il reste des fils de fer à quelques endroits, mais tout ce qui est cordette, ça a brûlé. Enfin, on est surtout sans clôture. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on puisse clôturer pour dire de... Parce que, bon, les viticulteurs, ils râlent si les chèvres, elles sont bonnes. Là, vous voyez, après l'incendie, la première voiture qu'on a vu passer après que les pompiers aient déblayé, c'était les gendarmes qui venaient parce qu'une personne s'était plaint que les chèvres étaient dans les vignes après l'incendie. Et voilà, c'est un conflit toujours entre les chèvres et les vignes, enfin, ou sur les moutons, c'est pareil.
Il faut qu'on reclôture parce que sinon elles vont aller là où il y a de l'herbe, c'est-à-dire.
Non, mais bon, après, si tu les alimentes un peu le matin, il faut qu'elles sortent déjà et qu'elles crèvent la végétation qui va repartir.
L'idée, c'est de favoriser l'herbe. Donc
vous appelez comment ?
Portal Guillaume, Gaëc Fer du Montagut, à Tézan des Corbières.
Et là, vous êtes venu apporter des trucs ?
Ben ouais, là, on a amené du grain pour les chèvres. Donc, on leur a amené 2 sacs de maïs. On a dû leur amener 100 kilos et une paire de bidons s'ils ont jamais ils ont besoin pour pouvoir transporter des choses, de l'eau ou quoi que ce soit.
Alors, il y a beaucoup de discours sur ce que pourrait apporter l'élevage ici, y compris des autorités. Vous dites, ben, on n'est quand même pas beaucoup. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, de votre point de vue, rend difficile l'installation d'autres éleveurs ? Voilà, qu'est-ce qui faciliterait l'installation ?
D'abord, c'est l'accès au foncier. Les mairies, il faudrait qu'il y ait des obligations, qu'il y ait au minimum un berger par commune. Une obligation de laisser les terres communales à des éleveurs qui s'installent. Après, il y a des collectifs de bergers qui sont en train de se monter. Il y a des outils, les groupements pastoraux. Les groupements pastoraux donnent droit à avoir des aides, des subventions spéciales pour l'eau, les chemins, le girobroyage, les réouvertures de milieux, etc. Les associations foncières pastorales, c'est la même chose. Mais tout ça, c'est des accès aux fonciers. Donc en fait, il faut que ce soit... Le principe, c'est de monter des associations pour que les propriétaires et que tout le monde mettent les terres en commun pour favoriser une exploitation. Alors ça s'est beaucoup fait dans les hautes corbières, dans les basses corbières, il n'y en a pas du tout. Voilà. Des feux comme on a eu là, d'abord, ils savaient que ça allait arriver depuis 20 ans, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Maintenant que c'est arrivé, il y a une prise de conscience, mais on peut en faire un par an pendant 10 ans.
Et pour vous, l'élevage, c'est aussi à prendre en compte dans les stratégies de prévention ?
Bien sûr, hein. On est obligé de le prendre en compte. Mais même pour le milieu agricole local, ça amène de la diversité. Les gens, ils vont pas vouloir voir des espaces cramés et des espaces sauvages. S'il n'y a pas de vie et s'il n'y a pas d'humain au milieu, et si les touristes, mais même les autochtones, mais les gens du coin, quoi, ne voyaient pas autre chose que les 3 petites vignes qui vont rester petit à petit parce que le milieu viticole est en train de s'effacer avec la crise, qu'est-ce qui va rester ? Ce qu'on a dans les montagnes et les garrigues, ben c'est petit à petit, ça devient la même chose dans les plaines. On le voit, moi, quand on m'a dit, il y a le feu à Saint-Laurent, ben Saint-Laurent, c'est dans la vallée, quoi. Comment ça se fait que le feu soit... Mais quand on regarde les vallées sont à l'abandon. Il y a autant de jachères que de vignes, maintenant. Et ça va en empirant. Moi, à Tézan, quand je suis arrivé, il y avait 40 viticulteurs. Je ne sais même pas s'ils sont 20, 20 ans après. Donc tous les tissus agricoles, il faut les maintenir. C'est le seul moyen d'arriver à gérer un peu la nature. Parce que tout le monde va nous dire « Ah oui, mais qui c'est qui a allumé le feu ?» Et commencer « Ah mais c'est ceci, ah mais c'est cela. » Mais on s'en fout de ça en fait. Parce qu'il y aura le feu, tout simplement. D'une façon ou d'une autre, ça brûlera. Ça brûlera et ça rebrûlera. Parce qu'il y a des zones qui brûlent et qui rebrûlent. Voilà.
Allez.
Il est une chose que les acteurs locaux réclament tous, c'est d'adapter certaines réglementations aux spécificités du territoire. Après le feu, élus locaux et nationaux se sont rendus dans les Corbières pour appeler à faire de ce territoire particulièrement touché par le dérèglement climatique un laboratoire. Mais pour cela, il faudra aussi des moyens. À court terme, l'État a débloqué un fonds d'urgence de 7 millions d'euros pour les agriculteurs.
On va essayer d'indemniser à minima toutes les pertes de récolte.
Ludovic Roux, président de la Chambre d'agriculture de l'Aude.
Sachant qu'on a volontairement priorisé les pertes de récolte annuelles qui sont très souvent pas assurables ou mal assurées, plutôt que des pertes de fonds qui, eux, sont assurables et plutôt normalement bien assurées. Bon, ça a été un choix. De toute façon, on avait une enveloppe fermée, donc il fallait faire avec. Par contre, on a eu d'autres feux, en fait, dans le département de l'Aude, donc des gens qui, eux aussi, ont beaucoup perdu. Et aujourd'hui, le ministère est fermé à la possibilité de venir accompagner ces feux-là. Donc on a monté une association d'agriculteurs sinistrés depuis 99 que l'on relance à chaque fois qu'il y a un drame. Donc on la relance en 2018 pour des inondations et donc là on la relance pour essayer de venir en aide à des gens qui ont pour certains tout perdu dans d'autres feux et même peut-être pour aider certains du feu de Ribotte qui n'auraient pas été assez accompagnés soit par le fonds d'urgence, soit par le système assurantiel. Voilà. Mais du coup, ça amène à une réflexion où il y a vraiment urgence à travailler le sujet de l'indemnisation des feux et des répercussions des feux sur l'agriculture. On ne pourra pas continuer comme ça parce que malheureusement, il y aura d'autres feux et on n'aura pas un fonds d'urgence à chaque fois. On n'aura pas des dons à chaque fois. Donc là, on va essayer de passer avec ça. J'espère que ça ira. Mais il faut vraiment réinventer un système. La zone méditerranéenne était une zone durement impactée par le changement climatique, qui est très spécifique. Alors aujourd'hui, la déprise agricole est terrible. On vit une désertification d'une partie de nos territoires, donc avec des communes où il n'y a plus d'activité économique, il n'y a pas d'eau potable des fois pendant 2 mois l'été, et donc simplement les anciens, et c'est triste, restent là parce que ils sont nés ici et puis ils attendent la fin de leur vie, mais les jeunes s'en vont. Donc l'idée c'est de dire soit on accepte qu'il y a une partie du territoire en zone méditerranéenne qui soit abandonnée, désertifiée, et donc on s'habitue à des grands feux quand ça reviendra, parce que ça reviendra, soit on se dit que ces territoires méritent d'être accompagnés, qu'il y a moyen de faire quelque chose dessus. Moi, j'y crois parce qu'il y a toujours eu de l'agriculture dans l'histoire. Et on a des paysages magnifiques, du tourisme. Donc, si il nous faudrait pas grand-chose, en fait, pour retrouver une dynamique positive. Sauf que là, maintenant, on arrive à une situation où le monde économique et agricole est à bout, épuisé, fatigué, les maires aussi. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ces changements de paradigme pour qu'après, il puisse y avoir une dynamique. Et là, après, moi, je fais confiance aux gens en place. Si on a quelques réglementations qui bougent et si on a quelques budgets qui arrivent, comme ça a été fait pour les zones de montagne, on arrivera à rebondir.
Mais alors, avant ça, dans cet immédiat après-incendie, il y a quand même les questions de qu'est-ce qu'on reconstruit et comment, et qu'est-ce qu'on décide de reprendre. Le fonds d'urgence, les assureurs vont servir à parfois renflouer les caisses ou aider à tenir des vignerons qui, pour certains, arrachaient. Donc, est-ce qu'il faut reconstruire des vignes là où, dans les années passées, on les arrachait faute de débouchés ?
La question est compliquée. C'est un vaste sujet. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il faut parler de l'aménagement du territoire. Ce qui compte, c'est vraiment de se dire comment on aménage le territoire. Et là, il faut qu'on recense les endroits stratégiques. Par exemple, à la Chambre d'agriculture de l'Aude, on a fait un gros travail avec les services du SDIS et de l'État, de la préfecture.
Donc, les services...
C'est les services des pompiers. Et donc, on a repéré 66 000 hectares à enjeu DFCI, donc lutte contre les feux, et 66 000 hectares agricoles. Donc, par exemple, on pourrait définir que ces 66 000 hectares sont prioritaires, qui puisse avoir un accompagnement financier, quelques réglementations spécifiques. Et là, nous, ce que l'on pense, c'est que les vignes pourraient avoir ce rôle coupe-feu. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, il y a eu de l'arrachage, donc il faudra trouver une certaine rentabilité. Après, ce qu'on doit dire, c'est que dans certains secteurs, il faut 4 hectares de vignes pour faire le rendement que font certains autres secteurs avec 1. Donc, quand on parle d'aménagement de territoire, peut-être qu'il va falloir aussi ventiler différemment l'endroit où on met les vignes. Et ensuite, il y a la polyculture élevage qui était très, très présente dans nos territoires il y a plus de 50 ans et qui aujourd'hui a quasiment disparu. Donc là, l'idée, c'est une meilleure ventilation des aides en commençant par la PAC et ensuite des modèles économiques différents sur ces territoires. Pour être plus concret, par exemple, on travaille en ce moment à la Chambre d'agriculture sur des paiements pour services environnementaux. Ce qu'on travaille actuellement, bien sûr, c'est pour l'enjeu de lutte contre le feu. L'idée, là, c'est de récupérer de l'argent de grosses entreprises privées, type Vinci, qui, par exemple, a eu l'autoroute bloquée pendant plus de 2 jours à cause du feu, et de dire, voilà, l'agriculture rend un service, j'ai envie de vous dire presque rend un service public, à un moment donné, il faut le rémunérer. Donc, si Vinci, par exemple, ou une entreprise qui transporte du gaz a son entreprise quelque part qui est protégée par l'agriculture parce qu'on fait de la politique culture-élevage et parce qu'il y a quelques vignes qui empêchent le feu, ben eux, en échange, il faut qu'ils abondent dans des fonds qui permettront de rémunérer ce travail qui est fait.
Ludovic Roux, les 66 000 hectares là que vous avez identifiés avec la Chambre d'agriculture et les services des pompiers, ce sont des zones où il y a quoi aujourd'hui ?
Alors, à aujourd'hui, il y a très souvent de la viticulture et puis quelques friches, malheureusement, quelques prairies, bon, tout ça est très fragile. Donc l'idée, c'est de dire, sur cette zone, il faut absolument remettre de la culture. Et puis, quand je parle d'adapter à la zone méditerranéenne, il faut s'imaginer ce que serait la montagne sans les politiques qui ont été mises en place spécifiquement à la montagne. Aujourd'hui, il n'y aurait plus d'élevage, il n'y aurait plus d'agriculture dans la montagne, et donc je pense que les stations de ski seraient embêtées parce que le paysage ne serait pas le même, il y aurait moins de touristes, etc. Donc ce qui a été fait en zone de montagne peut très bien être réalisé en zone méditerranéenne. Par contre, il y a urgence parce que les gens sont à bout.
Saint-Laurent de la Cabrerisse est l'un des villages particulièrement frappés par le grand feu du mois d'août. D'emblée, l'équipe municipale s'est mobilisée pour les urgences, reloger ceux qui ont perdu leur maison, faire les opérations de nettoyage. Mais le travail ne s'arrête pas là. Je rencontre le maire Xavier de Volonta à la sortie de sa réunion hebdomadaire avec l'ensemble des services de l'État et des acteurs locaux.
C'était quoi l'objet de cette réunion là aujourd'hui ?
Mais c'est de faire le point, comme on fait toutes les semaines, sur les nouveaux problèmes que l'on a. Aujourd'hui, c'est de voir comment on traite les arbres brûlés dans les ruisseaux, dans nos rivières, parce qu'on sait qu'on est dans un climat méditerranéen qui provoque ces feux et ces dégâts considérables, parce que c'est très sec, mais on sait qu'on peut avoir au mois de novembre ce qu'on appelle des épisodes cévenols au méditerranéen, qui sont parfois catastrophiques, parce que c'est des masses d'eau importantes qui tombent sur un petit périmètre. Donc si on ne nettoie pas ces rivières rapidement, on aura d'autres problèmes qui vont se greffer à celui qu'on a connu. Donc c'est d'essayer d'anticiper, à nettoyer, là, sur le mois de septembre, octobre, ces ruisseaux, ces rivières, pour que l'eau, si jamais elle tombe très fortement, puisse s'écouler jusqu'à la mer sans faire des dégâts autres que ce qu'on a subi durant ce mois d'août. Tout ça, aujourd'hui, on a connaissance parce que malheureusement, notre département a subi en 1999, en 2018, de fortes inondations. Donc il y a eu des expériences là-dessus par rapport à ces sinistres qui doivent nous servir pour anticiper sur certaines choses. On n'empêchera pas tout. La nature est toujours la plus forte, on le sait. Mais essayons d'éviter des gros problèmes en les transformant en petits ou moyens problèmes.
Là, par exemple, c'est quoi les questions, le type non, de questions qui se posent ?
C'est de se dire jusqu'où vous allez ? Est-ce que le reste des riverains peuvent intervenir pour nettoyer ? Comme on faisait avant notre pas de porte, où c'était les gens qui balayaient devant leur porte, alors aujourd'hui, on dit que c'est à la commune à le faire, qu'on retrouve cette solidarité qu'on a connue depuis un mois, qui a été fantastique, mais qu'on dit que cette solidarité, elle peut continuer à travers une participation dans certains travaux, de dire, tiens, mais le riverain, pour pas que son terrain soit abîmé par ses crues, mais il va couper 5-10 arbres au milieu du ruisseau, et ça permettra à chacun de faire quelques mètres supplémentaires dans le débitement de ses rivières.
Autour des villages, il y a beaucoup de des agriculteurs qui ont perdu des parcelles complètes, des bouts de forêt, dont on ne sait pas exactement si c'est forêt domaniale ou autre. Enfin, c'est que dans les gens, par exemple, qui ont perdu, j'imagine qu'ils n'auront pas tous les moyens de reprendre les choses. Enfin, que peut devenir, dans un court terme,
C'est la question qu'on a posée au service de l'État, en disant il y a beaucoup plus de forêts privées qui ont brûlé que de forêts domaniales, mais on ne peut pas laisser ces choses en l'État, et que souvent, dans ces forêts, il y a X dizaines ou centaines de propriétaires. Donc s'il faut la signature de tout le monde, où il y a des terrains où il n'y a plus de propriétaires, parce qu'ils sont tous décédés, c'est des terrains qui n'ont plus de valeur, donc il n'y a pas de recherche de propriété. Comment on fait ? Donc l'État est en train de voir juridiquement comment demain on peut trouver une solution pour dire l'ensemble de cette surface va être nettoyée, va être replantée avec des essences. C'est privé, c'est communal, on travaille pour l'intérêt général. Voilà. Le choix de départ, c'est est-ce qu'on veut conserver ce territoire ? Si on veut le conserver, on met les moyens qu'il faut. Si on dit ben, on n'a pas les moyens, ok, on a compris, on migre ailleurs et on en fait un désert demain. Mais comment on ait le courage politique, dans le sens noble du terme, de le dire. Moi, je ne veux pas migrer, même si je suis vieux ou presque vieux, je veux vivre dans mon territoire, je veux que mes enfants, mes petits-enfants vivent sur ce territoire. Donc ça veut dire qu'il faut le construire, reconstruire, peu importe le terme, sûrement d'une façon différente.
Reconstruire et aussi régénérer un paysage. Avec l'association Arbres et Paysages, Étienne Ramadier accompagne les agriculteurs vers l'agroforesterie. Lui en est convaincu, il est crucial de retrouver un territoire arboré.
L'arbre, il vient répondre à plein de problématiques. Ça peut être des problématiques en termes de climat, de microclimat. Donc ici, on est sujet à beaucoup de vent, à des écarts de température forts, on a des grosses sécheresses, donc ça vient les atténuer. Il y a des effets sur l'érosion des sols, sur la vie des sols, sur la structuration des sols. En fait, la base de la vie au-dessus du sol, c'est quand même la vie dans le sol. Et l'arbre, il vient permettre de favoriser cette vie du sol. Il vient aider au niveau paysager, en termes de confort de vie, en termes de confort de travail, de bien-être. Voilà, sur vraiment beaucoup d'aspects, et surtout les aspects évidemment biodiversité, aide à la culture. Nous, c'est aussi l'objectif, c'est qu'il soit un allié de la production agricole. Et donc, ils viennent complémenter et aider la production agricole. Souvent, il y a un effet aussi pour limiter le vent, parce que quand on passe un tiers, la moitié de l'année sur le terrain à tailler ou à faire des travaux dans la vigne, c'est aussi intéressant de moins suivre le vent. Et du coup, c'est quelque chose aussi dont on parle pas beaucoup, mais on parle souvent de la chaleur pour la sécheresse. La sécheresse, c'est le stress hydrique, le manque d'eau. Et le vent, il a un rôle considérable aussi sur ça. Donc là, on a un assèchement éolien qui est donc dû au vent, qui est vraiment fort. Ici, il y a entre 200 et 300 jours de vent par an. Donc l'assèchement, il est continu.
Et là, beaucoup d'arbres ont disparu avec les incendies. Ça va encore accélérer ça ?
Exactement. Oui, ça va favoriser ça. L'arbre, il évapotranspore, c'est-à-dire qu'il transpire comme nous, mais de manière beaucoup plus importante. Et ce volume d'eau, qui peut représenter des milliers de litres par jour, il va permettre la condensation et la diminution en fait, de la température de manière microclimatique. Donc à des grosses échelles, ça diminue, bon, on le voit notamment dans les villes, les endroits où c'est arboré, les endroits où ça ne l'est pas, ça fait tampon en fait, ça atténue ces variations climatiques. Donc le fait qu'il y ait moins d'arbres, ça ne permet pas d'atténuer ça, et donc ça va accentuer le phénomène.
Pour vous, Étienne Ramadier, il y a aussi un enjeu du paysage.
Ouais. Je pense surtout aux gens qui vivent là-bas et qui, pendant plusieurs années, vont avoir que du noir et du minéral à perte de vue. Et en fait, psychologiquement et en termes de sensations, on a vraiment l'impression d'être sur la lune. Quoi. C'est vraiment pas très confortable, psychologiquement et socialement. Donc, arborer et repenser le paysage, ça va répondre à plein d'enjeux qui sont au-delà juste de la biodiversité. Donc nous, on réfléchit à justement engager des chantiers cet hiver pour planter dans les communes qui ont été touchées. Pas forcément dans le massif, mais pour qu'il y ait déjà une mobilisation, que les gens reprennent un peu de l'élan, de se dire, ben voilà, on est acteurs, on remet quelque chose en place. Il y a des choses naturellement qui vont venir et il va falloir être résilient et patient malheureusement. Et c'est ça qui est, je pense, difficile aussi pour les gens qui ont été touchés parce que il y a eu le traumatisme effectivement du danger. Et après, on vit dans un environnement qui en permanence rappelle ça. Donc l'idée justement de notre chantier, c'est d'essayer d'introduire une dynamique qui puisse commencer à justement limiter un peu cet effet-là, de se dire, bon voilà, on vit dans un territoire qui n'est pas juste un territoire brûlé.
Tout le massif qu'on a à droite, là, c'est le territoire vital d'un groupe d'aigles royaux que nous, on suit, qui est du coup sur le site Natura 2000.
L'ensemble de la biodiversité a été très endommagé par les incendies. Alors, le parc naturel régional Corbière-Fenouillède fait l'état des lieux pour documenter, mais aussi accompagner dans la durée, la reconstitution du paysage.
Également la zone de reproduction qui a brûlé.
Clotilde Duhaillon est la directrice du parc naturel régional.
La première étape qu'on est en train de faire, c'est déjà évaluer le préjudice écologique qu'il y a sur le territoire. On avait un certain nombre de données et d'informations sur ce qu'il y avait avant. On souhaite maintenant voir ce qui a été détruit, et ça va prendre plusieurs années. On peut là évaluer ce qui a été détruit là à l'instant T, mais on a besoin d'au moins un an pour voir comment les espèces au printemps prochain reviennent et comment la vie se fait. Donc là, il y a nos actions principales aujourd'hui, c'est justement de voir un peu quel est l'impact du feu et derrière de voir comment nous on peut agir pour faire entendre la voix aussi du patrimoine naturel. Enfin, voilà, le paysage il est transformé. Ce paysage il est transformé, mais il peut être repensé, il peut être aménagé. Je pense qu'il y a une vraie nécessité de dialoguer avec la population, d'être très présent à leur côté. Pour déjà les rassurer sur le fait que ce paysage, il est marqué, il est transformé, mais il va se relever. Et il va se relever, et à nous, collectivement, d'avoir les meilleures réponses pour qu'il se relève correctement, entre guillemets. La question de la replantation, là, on entend beaucoup ça. Tout le monde veut replanter, tout le monde veut couper les arbres. Nous, on sera là pour expliquer quels sont les risques en cas de replantation, quelles sont les bonnes essences à replanter, si vraiment replantation il y a, quelle est la nécessité derrière d'entretenir ce milieu, qu'on ne peut pas replanter n'importe quoi et puis après laisser faire. Non, il faut être présent, il faut l'entretenir, ce territoire, il faut le bichonner. Et puis il y a aussi de dire ce paysage, c'est un paysage qui paraît sinistré, mais c'est un paysage qui va se relever.
C'est pas juste réparer l'incendie, c'est penser à un aménagement après l'incendie.
Ben c'est tout à fait, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir régler la gestion du risque d'un côté, la gestion de la forêt de l'autre, la gestion de l'agriculture. De toute façon, l'aménagement du territoire, il est global. Et le patrimoine naturel, il reviendra si l'agriculture peut se réinstaller. Sans doute que l'agriculture, il faudra l'accompagner pour se réinventer, pour se diversifier. Et puis, il y a un vrai travail sur le foncier. Comment on veut réaménager ce territoire? Comment on choisit les bonnes parcelles pour parfois peut-être replanter, pour parfois y mettre de la vigne, pour parfois y mettre un éleveur, pour parfois y mettre une piste DFCI, parce que c'est nécessaire pour pouvoir protéger la population et les massifs. Et donc, DFCI c'est les pistes qui permettent aux pompiers d'intervenir et qui manquent sur ce territoire qui, justement, s'est densifié. Donc, il y a vraiment cette question de mettre vraiment toutes les thématiques autour de la table pour faire en sorte que les choix d'aménagement du territoire qui soient faits en y mettant vraiment tous les acteurs pour que chaque parcelle qui soit derrière retrouvée ou sur laquelle on agira soit faite parce qu'elles ont été bien choisies, parce que c'est de la vigne qu'il fallait mettre ici, parce que ça permet à un agriculteur de vivre, ça permet de valoriser les paysages, de valoriser notre culture, et derrière aussi ça permet de faire un coupe-feu parfait aux abords des maisons.
Vivre dans l'eau d'après les incendies, un reportage de Catherine Pétillon avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous retrouvons l'invité de ce grand reportage, la géographe Magali Regueza. Les incendies, comme celui du massif des Corbières cet été, étaient autrefois exceptionnels. Ces feux dits extrêmes pourraient devenir la norme en Méditerranée. Ce risque croissant, il n'est pas encore entré dans tous les esprits. On entendait Guillaume qui disait, lui, on savait que ça allait arriver.
Bien sûr, et moi je trouve que le reportage est particulièrement bien fait parce qu'on voit finalement que sur les territoires, les gens savent. C'est-à-dire que quand on parle de ce changement climatique, de ce déni climatique, les agriculteurs, les professionnels du tourisme, les élus, les habitants, ils connaissent ce risque. On sait parce que le milieu méditerranéen, c'est effectivement un milieu qui est soumis à des sécheresses estivales et dans lequel les risques de feu ont toujours existé. Et malheureusement, avec le changement climatique, ces risques de feu s'aggravent. Et c'est le cas d'ailleurs pour les autres risques. Un des élus parlait des inondations, des pluies cévenoles, un autre parlait des vagues de chaleur. Donc le changement climatique, effectivement, aggrave, intensifie ces phénomènes. Et évidemment, les agriculteurs qui travaillent avec la nature sont en première ligne, mais ce n'est pas les seuls en réalité. Donc oui, il y a cette conscience du risque. Oui, il y a sans doute aussi cet écœurement parce que, comme il est dit, on savait. Et ça, indépendamment du changement climatique, dans ces territoires, on a des récurrences d'événements catastrophiques, d'événements qui tiennent au milieu méditerranéen. Et ces territoires ont accumulé des années et des années. Je dirais pas d'inaction, mais en tout cas de, on a laissé faire, on a laissé construire au mauvais endroit, on a finalement baissé la garde par rapport à l'incendie.
Le constat, il est donc fait. Est-ce qu'il y a consensus sur le fond, sur les mesures de prévention qu'il faudrait prendre ?
Alors oui et non. Oui, quand on voit effectivement qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience sur l'incendie, du débroussaillage, des pistes de pompiers. Alors, ce qui n'est pas dit, c'est aussi la question des matériels, la question de la position des casernes, le fait qu'on a aujourd'hui des services de sapeurs-pompiers qui sont mobilisés non seulement tout l'été, mais de plus en plus tôt et de plus en plus tard dans l'année. Donc, tout ça est pris en compte et d'autant plus pris en compte que d'autres territoires en Méditerranée, je pense aux Var et aux Alpes-Maritimes notamment, ont depuis des décennies, parce qu'eux ont connu des incendies déjà par le passé, mis en place en fait ces mécanismes. Non, parce que ce que retrace votre reportage, c'est le fait qu'on raisonne toujours dans un climat passé. C'est-à-dire que finalement, on va se reporter, on va se rabattre sur des solutions qui étaient connues avant, en ne se projetant pas dans le futur qui est celui d'un climat qui va continuer à changer tant que ce qu'on appelle la neutralité carbone n'est pas atteinte.
On a du mal à changer de logique ?
On a du mal à changer de logique parce que, et c'est pas du tout une critique vis-à-vis des habitants de ce territoire, au contraire, même les scientifiques qui travaillent sur le climat, même des gens qui, comme moi, travaillent depuis 20 ans sur les catastrophes naturelles, eh bien, on a du mal, en fait, à se figurer ce que pourrait être ce monde à plus 2, à plus 3 degrés. En 2050, si on continue comme ça, on arrive à 2 degrés au niveau mondial. L'humanité, et en tout cas ce territoire méditerranéen, n'a pas connu depuis des millénaires un tel réchauffement climatique. Et donc, les outils qu'on met en place ou qu'on a pu mettre en place ne sont plus forcément les bons, ou en tout cas risquent d'être inopérants, parce que la marche à franchir par rapport à l'impact de ce réchauffement qui continue, eh bien, elle est beaucoup trop haute. Je vous donne juste un exemple, on parle de replanter des arbres. Tout à fait vrai. Mais pour faire un arbre, il faut 10 ans. Il faut 20 ans, il faut parfois plus. Cet arbre, il risque de même pas pouvoir pousser à cause des vagues de chaleur, à cause des sécheresses et à cause de la récurrence des incendies. Et donc aujourd'hui, il y a une course contre la montre qui est engagée. Et cette course contre la montre, elle appelle aussi à réfléchir aux instruments qu'on va mettre en place parce que des solutions qui ont toujours fonctionné dans les territoires méditerranéens risquent d'être sinon obsolètes, du moins inefficaces ou en tout cas pas efficaces si elles ne sont pas assorties d'autres mesures.
Catherine Pétillon.
Parmi les personnes que j'ai rencontrées, beaucoup essayent de faire différemment, d'inventer d'autres modèles. Ils sont déjà dans la recherche d'autres manières de faire, de ce changement de logique que vous évoquez. Finalement, quel outil leur manque pour que ça prenne de l'ampleur, pour changer vraiment ?
Alors, il y a deux niveaux. D'abord, ce qui est montré, c'est qu'effectivement, on n'a pas attendu que la société dans son ensemble se mette en marche dans les territoires ruraux pour mettre en place des réponses. Et on voit aujourd'hui que finalement, on manque d'un niveau global qui donne vraiment une orientation pour dire voilà où on va aller, voilà quelles sont les priorités. Moi, je suis très frappée par l'expression d'un des élus qui dit à un moment, il va falloir donner la vérité des prix et dire si on veut ou non continuer à sauver ces territoires, si on veut ou non continuer à ce qu'ils habitent. Donc, on a besoin aujourd'hui d'avoir une stratégie, d'avoir un chemin qui est tracé pour nous dire où est-ce qu'on veut collectivement aller. Ce qui manque également, ce sont des outils, et ça a été très bien dit, hein, en accompagnement financier, en accompagnement technique, et derrière, sans doute aussi, quelque chose de plus fin, à des mailles plus fines, parce que, très bien dit aussi dans le reportage, c'est que on va pas s'adapter de la même façon dans le bassin méditerranéen et puis dans le nord de la France, dans l'Est ou dans le Massif central. Donc là, on a besoin aussi de pouvoir décliner des outils avec une limite, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à opposer le national et le local et que ça devient un argument de l'inaction. Il s'agit pas de se renvoyer la balle. Il s'agit à un moment de se dire, voilà, au niveau national, collectivement, qu'est-ce qu'on décide ? On a parlé d'assurance, on a parlé d'aide sur le budget de l'État, on a parlé d'accompagnement, par exemple les chambres d'agriculture qui vont accompagner par des conseillers. Donc on a un ensemble enfin d'instruments et ça, ça se décide au niveau national. Et ensuite au niveau local, effectivement, on va avoir besoin de ce qui est mis en place, c'est-à-dire de collectifs, d'entraide, de solidarité. Et là aussi, de trajectoire territoriale, de projet de territoire. Vos élus ils disent bien, et les habitants, c'est notre territoire. On ne fait pas qu'y vivre, on y habite. Ce qui est frappant, c'est ce sentiment d'appartenance. Et on a aujourd'hui l'impression que, d'une certaine manière, la relocalisation serait un geste presque facile. Bon, si on ne peut pas rester, on s'en va. On voit bien que ça ne marche pas comme ça. On voit bien que derrière, ce sont vraiment des projets de territoire pour dire, voilà, est-ce que demain, on veut continuer sur ce territoire à faire du tourisme, à faire de l'agriculture ? Est-ce qu'on a d'autres ressources ? De l'énergie ? Est-ce que, par exemple, ce territoire pourrait demain produire de l'énergie ? Est-ce que demain, ce territoire pourrait avoir d'autres activités ?
Mais alors, ces projets, qui est en mesure de les porter financièrement ? Parce que la question des moyens est essentielle, évidemment.
Alors, on a plusieurs leviers. Il y a le levier européen, parce qu'il y a des fonds européens qui sont décidés entre États. Il y a évidemment le niveau national, avec des moyens qui sont engagés non seulement au niveau des ministères de tutelle des différentes activités, mais aussi qui ont été par exemple engagés par la planification écologique, qui sont aujourd'hui engagés aussi dans des réflexions autour d'instruments comme ce qu'on a appelé le Grand Programme France 2030, où on a des stratégies, on a aussi des... Donc on a des tas d'outils en fait qui sont après déclinés au niveau territorial à travers des projets de territoire. Et puis on a au niveau régional, notamment à travers les questions d'infrastructure, les questions de formation professionnelle, au niveau départemental, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'aides sociales. On parle beaucoup là des activités économiques, mais derrière, il y a tout un tissu d'entraide par rapport à des personnes. Par exemple, ce sont des départements dans lesquels on a des enjeux démographiques de vieillissement. On a les collectivités territoriales, on a les communes, et puis on a les acteurs privés. On oublie que ces agriculteurs, ce sont des entrepreneurs. Quand on parle, par exemple, du groupe, je ne sais plus quel grand groupe privé qui est concessionnaire de l'autoroute, on voit bien que derrière, on va avoir aussi besoin de repenser les banques, les assurances, tous ces financements privés qui viennent en appui à des acteurs et qui vont devoir les accompagner dans des investissements. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est des investissements de l'avenir. Quand on va replanter une vigne, quand on va reconstruire une maison, quand on va reconstruire une route, on est dans de l'investissement par rapport à ce territoire qui arrivera dans le futur.
Investissements qui doivent changer, est-ce que ça veut dire qu'il faut réorienter des territoires comme l'Aude, réorienter les activités économiques ?
Alors parfois il le faudra. Et là aussi, on n'a pas attendu les experts, les chercheurs, où on voit bien aujourd'hui, par exemple, que l'activité agricole, elle évolue. On voit bien aujourd'hui que les activités touristiques évoluent. Les activités autour de l'accompagnement social, notamment des personnes âgées, notamment des jeunes ménages qui ont des enfants. Enfin, on voit qu'il y a un ensemble de métiers. Ce qu'on a encore du mal à trouver aujourd'hui, ce sont les ressources futures de la transition. Je vous donne deux exemples dans ce qui a été dit. On n'a pas du tout entendu parler d'énergie. Or, ce sont des territoires dans lesquels la production d'énergie pourrait devenir demain une ressource. On a aussi la question qui a été évoquée de l'élevage. Et on voit que dans cet élevage, l'élevage n'a plus simplement une vocation alimentaire, mais a d'autres débouchés. Des débouchés, par exemple, au niveau de la laine et du textile. Mais ça peut être aussi des débouchés au niveau de l'habitat, avec la laine qui va être utilisée comme matériel d'isolation. Donc on voit qu'on a des activités qui vont rester, mais qui vont trouver de nouveaux débouchés, d'autres activités qui vont arriver et qui demandent de nouvelles compétences, qui demandent de la formation, qui demandent là aussi de nouvelles entreprises qui vont se créer, des accompagnements particuliers. Et derrière, il y a ce sujet du foncier qui est fondamental, parce que c'est autour de cette question foncière finalement que ces activités vont pouvoir se redéployer et donc d'accompagner en fait la transformation de ce foncier vers des occupations qui sont nouvelles et qui sont plurielles.
Je rebondis sur la question de l'énergie, car beaucoup d'acteurs des énergies renouvelables sont très intéressés par ce territoire où il y a la chaleur, du vent. C'est vécu par beaucoup des interlocuteurs que j'ai rencontrés, y compris agricoles, plutôt comme une menace, l'installation de panneaux photovoltaïques. Est-ce que ça veut dire précisément que c'est un bon exemple d'activité qui pourrait complètement muter, avec des conséquences sociales ?
Avec des conséquences sociales, et c'est là où on arrive à l'aménagement du territoire. S'il s'agit de faire l'énergie contre les agriculteurs ou contre le tourisme, ça ne marchera jamais. En revanche, les agriculteurs eux-mêmes et l'agriculture produisent de l'énergie. On a autour de la biomasse des choses qui se créent. On a aussi la possibilité d'arriver justement à ce que dans les champs, il y ait une activité agro-photovoltaïque. Donc, on a des tas d'options aujourd'hui qui reposent là sur des technologies qui peuvent non seulement apporter des compléments de revenus aux agriculteurs, mais aussi créer des multi-usages des terres. Et donc, il ne s'agit pas de penser les activités de manière cloisonnée, mais bien d'avoir un projet d'aménagement dans lequel l'usage du foncier peut être pluriel, une même terre, elle peut servir à plusieurs choses et dans laquelle tous les acteurs sont impliqués et ont les retombées. Parce que, et c'est ce qu'on a vu sur ce bassin méditerranéen, quand le tourisme est arrivé, le tourisme, il n'a pas forcément eu des retombées pour les populations locales. C'était ce qu'on appelle une activité exogène, une activité portée par des acteurs extérieurs et qui a eu des retombées positives pour des acteurs extérieurs au territoire et qui a déjà mis en danger les terres agricoles. La spéculation foncière dans l'Aude et dans tout le bassin méditerranéen, elle s'est faite au détriment des terres agricoles, au détriment de l'installation des nouveaux agriculteurs. De la même façon, ce qu'on a appelé l'économie résidentielle, c'est-à-dire le fait qu'on mettait des maisons pour avoir des revenus sur les communes, ça pouvait être des résidences secondaires ou principales, elle s'est faite au détriment de l'agriculture. Et derrière, ce sont des acteurs du bâtiment qui ont raflé la mise. Donc on a vraiment besoin là de construire un projet économique dans lequel les acteurs économiques du territoire, les entreprises du territoire, trouvent leur compte. Sinon, ça ne fonctionnera pas.
Alors, on mesure l'ampleur du chantier d'aménagement souhaitable. Il faut de l'impulsion politique, des moyens financiers. Est-ce que le fait que soit reconnue la spécificité de la zone méditerranéenne, comme c'était évoqué dans le reportage, est-ce que ça, ce serait un bon levier pour agir ?
Oui, ça peut être tout à fait un levier, notamment parce que ça permet de flécher un certain nombre d'aides. Ça permet aussi d'accompagner. Ça permet de valoriser. Effectivement, les mesures sur la montagne ont pu être très utiles. Donc oui, bien sûr, cette spécificité, elle doit être reconnue. Et c'est bien d'ailleurs l'enjeu de l'adaptation. On oppose souvent l'adaptation et l'atténuation en disant finalement que l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est mondial. Et puis l'adaptation, c'est local. C'est un peu plus compliqué que ça. On a effectivement des spécificités territoriales pour l'adaptation et l'atténuation qui font que la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme la préservation de la ressource en eau, comme la préservation de la ressource en biodiversité et l'adaptation aux impacts du changement climatique, elle ne sera pas la même. Et ça, c'est une richesse pour le territoire. Parce que ça veut dire qu'il va pouvoir s'appuyer sur ses propres ressources, ça peut dire qu'il va pouvoir dégager aussi de l'innovation spécifique, par exemple des emplois qui ne sont plus délocalisables. Parce que quand vous allez devoir retaper des maisons anciennes, eh bien le travail de la pierre qui va se faire en Méditerranée, ça ne sera pas le même que le travail de la pierre qui va se faire en Normandie ou qui va se faire en Alsace. Ce n'est pas les mêmes techniques de construction. Ce n'est pas non plus les mêmes types d'élevage. Ce n'est pas les mêmes conditions d'élevage. Ce n'est pas non plus les mêmes cépages qu'on va planter. Ce n'est pas les mêmes essences. Donc tout ça fait qu'on a des spécificités et que sur une base commune à l'ensemble du territoire national, qui sont les grandes stratégies, les grandes lois, les grands cadres que donne la puissance publique nationale, le régalien. Et bien derrière, ensuite, on a des déclinaisons locales.
Merci Magali Regueza. Catherine Pétillon signe le grand reportage de cette semaine, Vivre dans l'Aude après les incendies. Réalisation Annie Brault, à la technique Grégory Wallon. Merci aussi à la documentation de Radio France. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.